As you've probably heard by now, we've teamed up with BetMGM this season. We'll be using BetMGM lines to make all of our picks, and we'll have special offers for our listeners each week. If you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC, and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager with BetMGM. Here's how it works. Download the BetMGM app and sign up using bonus code THEATHLETIC. Make your first deposit of at least $10, place your first bet on any game, and claim your voucher for a one-year subscription to The Athletic. See BetMGM.com for terms. U.S. promotional offers not available in D.C., Mississippi, New York, Nevada, Ontario, or Puerto Rico. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Available in the U.S. Call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369 in New York. Call 1-800-NEXT-STEP in Arizona. 1-800-327-5050 in Massachusetts. 1-800-BETS-OFF in Iowa. 1-800-270-7117 for confidential help in Michigan. 1-800-981-0023 in Puerto Rico. First bet offer for new customers only in partnership with Kansas Crossing Casino and Hotel. Don't forget, if you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager.
And now, two pigeons bemoaning the fact you can stream DirecTV satellite-free.
You see this? A family watching baseball on DirecTV with no satellite dish in sight.
Let's heckle them.
You call that changing the channel?
Choke up on the remote, buddy!
I hope getting all these games on DirecTV makes up for your mother not pre-chewing your sunflower seeds!
DirecTV has the most MLB games. Call 1-800-DIRECTV. Claim based on total games carried on sports networks. Sports availability varies by zip code and requires choice package. Terms and restrictions apply.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Super Athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal en ce 27 juillet. C'est le plein milieu de l'été, mais nous ne faisons pas encore relâche, Arpin, Bassou et moi. Bonjour Arpin.
Salut Marc-Antoine, il fait super beau aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait derrière notre micro? Là?
Ben c'est ça, qu'est-ce qu'on fait derrière notre micro? Ben en tout cas, il y a des choses à discuter quand même si c'est le 27 juillet, même si ça implique pas nécessairement le Canadien, mais il y a des choses qui se passent.
Potentiellement.
Écoute, on a entendu parler, expliquer Pierre-Luc Dubois sa situation cette saison. Alors, on va parler de ça. Toi, tu as eu un entretien avec l'ancien coach du Canadien, Dominique Ducharme,
oui.
Qui a été publié aujourd'hui. Alors, on va en parler de ça aussi. Et juste un peu les possibilités qui se présentent aux Canadiens concernant un couple de joueurs locaux qui sont dans des situations semblables, mais pas semblables en même temps.
Oui. Écoute, j'ai envie, là, tu mentionnes le nom du bois, là, on va essayer d'évacuer la question puis de pouvoir tourner la page après ça. J'ai comme l'impression qu'on arrive à un moment de l'été avec la signature de son offre qualificative de 1 an, 6 millions avec les Jets de Winnipeg. Là, le dossier est un peu classé pour les prochains mois, puis ça va faire du bien qu'on puisse tourner la page, parce qu'il y a eu énormément de spéculations à son sujet. Mais ça vaut quand même la peine de... Tu sais, moi, ce qui, à mon avis, rend ce dossier-là intéressant, c'est que c'est tellement rare que des joueurs, que ce soit par le biais de leur agent, par eux-mêmes, mais de façon détournée, expriment leur envie de venir jouer à Montréal, des joueurs de talent. Normalement, on parle tout le temps du fait que c'est donc... Montréal est donc un endroit qui a de la difficulté à convaincre les joueurs élites, les joueurs avec les talents de pointe. C'est difficile de les convaincre de venir à Montréal. Mais là, dans ce cas-ci, on a, selon toute vraisemblance, sous la main, un joueur québécois qui fait plus que dire les choses d'usage à propos du fait que, ouais, c'est l'équipe de mon enfance, ouais, ce sera le fun un jour. Je pense qu'il y a une... J'ai l'impression, puis ça date pas seulement de l'histoire des dernières semaines, mais je pense que ça date même d'avant même son repêchage. Pierre-Luc Dubois est un gars qui se qui se verrait bien, je pense, dans l'organisation du Canadien. Puis, étant donné que c'est rare, je pense que c'est ça qui rend la situation aussi intéressante pour le Canadien, parce que c'est une occasion qui ne passe pas souvent. Et si l'opportunité se présente, ce serait bon que le Canadien en profite puis capitalise là-dessus.
Oui. Moi, ce que je trouve intéressant, dans le fond, moi, je ne sais pas quand ça a commencé, ce désir-là. Sûrement quand il était enfant, que Pierre-Luc Dubois se voyait jouer pour le Canadien un jour, comme beaucoup d'enfants au Québec et honnêtement, un peu partout au Canada. Il y a beaucoup de partisans du Canadien, c'est clair. Puis ton rêve d'enfance, souvent, reste un rêve d'enfance. Une fois que tu deviens professionnel, ça arrête un peu. Je me demande à quel point les changements qui ont récemment eu lieu à Montréal, en termes de l'arrivée de Jeff Corton, l'arrivée de Ken Hughes, l'arrivée de Martin Saint-Louis en particulier, à quel point ça aurait pu peut-être influencer la façon qu'ils voient les choses, la façon que les joueurs en général voient les choses. On s'entend que c'est Marc Bergevin, je pense que il prend beaucoup de critiques pour la façon qu'il a géré le Canadien, je pense un peu trop des fois, mais une chose que je pense qui est quand même assez claire, c'est que sa relation avec ses propres joueurs des fois là, c'est ont mal tourné. On pense au dossier de Philippe Dano, on pense au dossier de Max Pacioretty, André Markov, Alex Radulov. Il y a plein de cas dans son historique qui se disait que peut-être que c'est le gars qui que c'est un peu plus difficile des fois quand tu joues pour lui, puis peut-être que t'es pas capable de combler les attentes que lui est là envers toi. Ça crée peut-être un environnement un peu malsain, mais la façon que le nouveau management qui est mené par quelqu'un d'expérience, Jeff Corton, mais qui a comme directeur général un ancien agent de joueur, puis après ça, t'as un coach qui est un gars qui non seulement est respecté par le joueur pour la façon que lui a joué, mais qui a déjà démontré des idées qui sont quand même assez intéressantes pour les joueurs en termes de comment s'améliorer plus tard dans ta carrière, comment continuer à s'améliorer tout au long de ta carrière. Je me rappelle que j'avais écrit un texte sur effectivement ce phénomène-là, Martin Saint-Louis qui parlait de façon que Josh Anderson et Brendan Gallagher peuvent s'améliorer. Et il y avait David Perron qui a repris l'article, puis il a dit « Ah, j'adore ça! On peut tout le temps continuer à s'améliorer! » Tu sais, c'est comme, puis il a lu l'article, ça l'a excité. On a entendu Vincent Lecavalier parler à un moment donné quand il a parlé Ken Hughes en paniquant quand il était à Philadelphie. Il dit « Écoute, je m'améliore pas, je cours en place, je panique, là, donne-moi des choses à faire, donne-moi des drills, tu sais, j'ai besoin de m'améliorer. » Alors, cette vouloir de continuellement évoluer comme joueur et améliorer comme joueur tout au long de ta carrière, je pense que c'est quelque chose que les joueurs recherchent. C'est quelque chose que Martin Saint-Louis a exprimé d'une façon très claire et très intéressante. Et je me demande à quel point ce nouveau dynamique-là au sein du Canadien pourrait peut-être influencer la façon dont un joueur comme Pierre-Luc Dubois pourrait voir son avenir à Montréal comparé à peut-être l'ancien régime, s'il pensait la même chose. On va pas le savoir jusqu'à temps qu'il arrive à Montréal, si jamais ça arrive, mais c'est ça qui m'a passé par l'esprit l'autre jour en pensant à ce qui s'est passé avec Dubois pendant les dernières semaines.
Ouais, puis petit aparté, là, tu mentionnes le nom de David Perron. Lui, c'est un bon exemple d'un joueur qui a continué de s'améliorer à mesure que sa carrière a avancé. T'sais. On dirait que la deuxième moitié de sa carrière est meilleure que sa première. Il a trouvé de la constance, puis c'est un peu à sa façon, puis peut-être pas au niveau de Martin Saint-Louis, mais c'est un gars qui a un peu repris ses traces en termes de continuer de s'améliorer sans cesse. Oui, effectivement, je pense que ça peut... Je pense que de manière générale, la présence de Martin Saint-Louis est une carte qui joue énormément en faveur du Canadien pour ce qui est... je pense que ça intrigue beaucoup. Ça doit intriguer beaucoup les joueurs de la Ligue nationale en général qui estiment beaucoup Martin Saint-Louis, qui croient en sa philosophie, qui le respectent également. Tu sais, Il fait partie d'un petit nombre de joueurs qui est constamment cité en exemple comme étant un modèle. Patrice Bergeron est un peu... Et dans cette gamme-là également, des joueurs... Il y a quelques années avant ça, il y avait Pavel Datsyuk, des joueurs chez qui... qui sont placés en exemple par autant de joueurs actuels de la Ligue nationale qui disent « Ah, ben moi, si je peux devenir un jour comme ce joueur-là ou je m'inspire de tel joueur... » Il y a énormément de joueurs, surtout ceux de plus petite stature, qui ont utilisé Martin Saint-Louis comme modèle. Puis je pense que ce niveau de respect-là, dont il jouit à la grandeur de la Ligue nationale, va au-delà de sa carrière de joueur puis se transpose aujourd'hui dans ce qu'il est comme entraîneur. Et puis, le feedback, les joueurs se parlent aussi. Puis je pense que le feedback qui est sorti de Montréal dans les premiers mois de son règne comme entraîneur-chef du Canadien, le feedback qui émanait des joueurs du Canadien eux-mêmes, je pense que le mot s'est propagé à travers la Ligue, puis ça va aider le Canadien dans les prochains mois, les prochaines années, peut-être à faire de l'équipe une destination plus attrayante. Avant qu'on se lance, parce que là, ce qui fait que Dubois est dans les... est un peu plus dans les nouvelles ces derniers jours, c'est qu'il a pris la parole en début de semaine. Lundi, il a pris la parole dans le cadre d'une vidéoconférence où il a commenté son nouveau contrat avec les Jets de Winnipeg. Mais avant qu'on aborde spécifiquement ce point-là, c'est bien beau de parler de la possibilité que Dubois vienne à Montréal et tout ça, mais aux dernières nouvelles, Dubois, c'est un joueur de centre. Et le Canadien vient de mettre la main sur Kirby Dach. Il a toujours... Christian Dvorak, qui, à mon sens, s'il se retrouve dans une chaise de troisième centre, c'est un excellent troisième centre au sein d'une équipe.
Absolument.
Nick Suzuki est en nette progression. Donc, est-ce que le Canadien a vraiment besoin de Pierre-Luc Dubois? Et je le dis, je le demande en toute candeur, parce que je pense qu'il peut apporter quelque chose, mais je veux t'entendre là-dessus. Est-ce que ça vaut la peine de faire un aménagement au point de vue salarial, au point de vue des effectifs que tu serais prêt à céder si jamais il devenait disponible avant l'autonomie complète? Est-ce que ça vaut la peine de faire tout un aménagement pour pouvoir trouver une place au centre à Pierre-Luc Dubois?
À mon avis, oui. Seulement parce que Pierre-Luc Dubois, je pense, rendu là, représente quand même une valeur assez sûre. Kirby Dach demeure une valeur qui a beaucoup de potentiel, mais il n'a pas réalisé ce potentiel-là. Puis on ne sait pas si jamais il va le réaliser, à quel point il va être capable de se rendre à son plafond. C'est un peu ça. Le gars, il a un haut plafond. Il y a beaucoup d'outils qui sont là, qui sont très attrayants. 6 pieds 4, premièrement. Un coup de patin qui est quand même... assez impressionnant pour un gars de ce grandeur-là, mais juste tout point. C'est un gars, c'est un bon patineur. Mais c'est pas un gars qui joue vraiment gros. C'est pas, oui, il est 6 pieds 4, puis oui, son physique, ça l'aide pour se positionner devant le but, puis faire certaines choses, protéger la rondelle, mais c'est pas un gars qui... je le décrirais pas vraiment comme un power forward. C'est pas vraiment quelqu'un qui s'impose avec son gabarit, qui s'impose physiquement nécessairement, à date. Puis peut-être... Peut-être qu'il deviendrait ça un jour. Peut-être pas. C'est pas nécessairement... Juste parce que tu fais 6 pieds 4, ça veut pas dire que tu dois être un gars imposant physiquement non plus. Mais, tu sais, il représente un point d'interrogation en ce moment. Alors, c'est pour ça que je trouve le timing en ce moment un peu intéressant. Parce que moi, si je suis les Jets... Écoute, rendu là, ça devrait être clair aux Jets que Nick Suzuki... Cole Caulfield, même un Caden Gooley, un premier choix en 2023, toutes ces choses-là ne sont pas sur la table concernant un échange potentiel du perspective des Canadiens. T'sais. C'est sûr que le Jets aimerait avoir un Nick Suzuki en retour pour un Pierre-Luc Dubois, mais ça ne va pas arriver. Mais un gars comme Kirby Dach, si j'étais les Jets, puis ça a l'air en ce moment que probablement, il va falloir que l'avenir des Jets tourne autour de Kyle Connor et Nick Ehlers, Cole Perfetti, leurs plus jeunes joueurs, des gars comme Blake Wheeler, Mark Scheifele, Dubois évidemment, même Connor Hellebuck, vont peut-être ces années sont comptées en ce moment. Ils ne vont pas passer beaucoup de temps à Winnipeg et probablement ne vont pas faire partie de l'avenir de cette équipe-là. Alors, en ce moment, le dénouement le plus probable de ce dossier-là, c'est que Pierre-Luc Dubois reste à Winnipeg cette année, puis l'été prochain, il serait échangé à quelqu'un, peut-être le Canadien, peut-être quelqu'un d'autre. Parce que sinon, il va soumettre une demande d'arbitrage, il va recevoir un contrat d'un an, puis il va être libre comme l'air l'année d'après, puis les Jets n'auront rien pour lui. Et effectivement, exactement ce qui est arrivé avec Jacob Trouba. Alors, c'est vraiment l'été prochain où tout ce dossier-là devrait se régler d'une façon ou une autre. Sauf que, qu'est-ce qui arrive si entre ici et là, que Kirby Dach joue avec le Canadien, puis qu'il commence à s'éclater, tu sais, il commence à trouver...
À éclore,
tu sais, il commence à démontrer ce potentiel-là et à prendre sa place avec le Canadien... comme un joueur top 6, comme un 1-2 punch avec Nick Suzuki au centre de la glace. Rendu là, peut-être que le Canadien serait moins enthousiaste à l'idée d'échanger un gars comme ça qui est rendu à l'année prochaine, il va avoir 22 ans. S'il connaît une bonne saison, disons une saison de, je sais pas, 50 points ou quelque chose, peut-être que là, le Canadien serait moins intéressé qu'ils sont en ce moment. T'sais, moi, je pense que si les Jets venaient voir les Canadiens en ce moment puis disaient, écoute, Kirby Dach, c'est quelqu'un qui nous intéresse, on pourrait peut-être bâtir un package autour de lui pour faire cet échange tout de suite. Moi, si j'étais le Canadien, je ne sais pas de quelle façon eux autres ils voient cette question-là, mais si j'étais le Canadien, je serais prêt à écouter. Ça serait quelque chose parce que là, tu as encore Dvorak qui... Comme tu as mentionné, c'est un luxe au troisième centre. Puis tu auras un Dubois-Suzuki 1-2, peu importe l'ordre. Ça commence à avoir de l'allure. Là. Alors, c'est juste ça. C'est tu sais, quand tu parles du besoin de Dubois, oui, si tu es capable de monnayer Kirby Dach pour aller chercher un Dubois, là, tu as une valeur qui est beaucoup plus sûre que ce que tu as en ce moment, puis je pense que c'est intéressant. Mais si Dach, d'ici l'été prochain, devient ce valeur qui est plus sûre, plus jeune, moins cher,
oui.
Sous contrôle pour plus longtemps, là, c'est Dach qui devient plus intéressant pour le Canadien que Dubois, puis rendu là, sauf s'ils sont capables d'envoyer Dvorak dans un échange avec d'autres joueurs. Puis tu te ramasses avec une ligne de centre qui est Suzuki, Dubois, Dach, et un Dach qui a démontré quelque chose cette saison-là. Je dirais que oui. Le Canadien a besoin de lui.
C'est un peu rêvé en couleur, par exemple, en même temps. Là. Il me semble que j'ai de la difficulté à imaginer que le Canadien peut s'arracher Pierre-Luc Dubois aux Jets de Winnipeg en donnant Christian Dvorak puis un autre atout là,
ça dépend des autres atouts. Christian Dvorak serait juste pour égaler l'argent là, mais t'as d'autres espoirs dans l'organisation, t'as d'autres joueurs et il faut pas oublier que rendu à l'été prochain, les Jets, c'est un peu ça la génie de ce que Pat Brisson a fait dans ce dossier là, en mentionnant et en rendant. Quand il a rendu ça clair à toute la Ligue que son client aimerait ça aller jouer à Montréal, peu importe ce que Pierre-Luc Dubois a dit cette semaine là, en disant « Ah, tu sais, ça a pris des proportions exagérées, c'était pris hors contexte. » C'est bien correct qu'il pense ça, c'est bien correct qu'il dit ça, mais c'est juste, c'est pas vrai. Tu sais, ce que Bisson a dit est très rare, on le voit pas souvent, et il y avait une intention qui est quand même assez claire pour démontrer aux autres équipes « Oui, si tu veux aller chercher Pierre-Luc Dubois chez les Jets, vas-y. Mais fort probablement, notre plan ne changera pas.
Mm-hmm.
Nous, on a l'intention de se rendre à l'autonomie complète en 2024. Et une fois rendu là, notre intention serait d'aller chercher un contrat chez le Canadien de Montréal. Alors, avec cette information en banque, tu sais, le poids de pouvoir là-dedans, ça demeure avec le Canadien. Les Jets ne sont pas dans une position de demander excessivement de choses, là. Parce que le Canadien a toujours l'option de dire « Bon, ben on va juste attendre. Là. On attendra un autre an, puis on va signer l'année prochaine. »
Mais en même temps, Il y a une couple d'affaires qui me chicotent là-dedans. Premièrement, c'est que si tu attends 2 ans, 2 ans, c'est quand même long. Il peut se passer beaucoup de choses avant d'ici l'autonomie complète pour Dubois. Si le joueur devient joueur autonome sans compensation, le jour où il se prévaut de cette option-là, même si ça peut avoir l'air que le Canadien serait une destination de choix pour lui à l'heure actuelle, le jour où il se retrouve joueur autonome sans compensation, que d'autres équipes se manifestent et se disent « Hey, nous, Pierre-Luc, on est intéressé à toi, voici ce qu'on est prêt à t'offrir », le montant à payer annuellement, le salaire que tu vas devoir lui verser, va nécessairement être plus grand que ce que tu aurais à lui payer s'il était déjà dans ton équipe et que tu dis « Hey, organisons-nous pour une offre, une prolongation de contrat. » C'est-à-dire que s'ils allaient le chercher, mettons, dans 1 an, et ils disaient « Ben, nous, on peut t'offrir une prolongation de contrat de 8 ans maintenant que tu es un de nos joueurs. » Selon toute vraisemblance, ça pourrait se faire à un prix moindre que ce qu'il pourrait obtenir en lançant une enchère et en disant « OK, je vais aller à Montréal, mais pas à n'importe quel prix parce que j'ai telle autre équipe qui est prête à avoir mes services pour un montant X qui établit ma valeur sur le marché encore plus haute qu'elle ne l'était il y a 1 an. » Fait que je pense qu'il y a quand même un intérêt pour le Canadien s'ils veulent vraiment, si l'intérêt est mutuel, essayer d'aller chercher dans 1 an plutôt que d'attendre qu'il devienne joueur autonome sans compensation. Puis l'autre affaire, c'est la question de l'âge aussi. C'est que tu veux aussi bénéficier, si le gars t'intéresse, c'est de bénéficier au maximum des années où il est à son zénith. Et puis, tu sais, Dubois, il touche à son pic maintenant. Puis chaque année qui passe, ben, va limiter le nombre d'années où il va demeurer dans son pic. Fait que si tu es intéressé à ce joueur-là, ben, assure-toi de l'avoir pour un maximum d'années où il va donner son plein rendement. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai tendance à pas trop faire confiance au fait que de toute façon, il va être là, il va être encore disponible pour le Canadien dans 2 ans quand il va être joueur autonome sans compensation. Puis dire, peut-être que même si ça nous coûte des actifs, là, sécurisons l'atout tout de suite. Puis mettons-le sous contrat, allons le chercher, mettons-le sous contrat, puis profitons de sa mi-vingtaine dès maintenant au lieu de rouler les dés puis de risquer que ça.
Oui, je suis d'accord avec tout ça. Ça a tout de sens au monde. Mais premièrement, juste pour être clair, là, c'est si le Canadien veut donner un contrat de 8 ans à Pierre-Luc Dubois, il va falloir le négocier avec les Jets, comme les Flames viennent faire avec Matthew Tkachuk, parce que il faut que tu sois sur la liste de réserve d'une équipe à telle date. Je pense que c'est la date limite des échanges. Mais je peux me tromper là-dessus, mais il faut que tu sois sur l'équipe de réserve de ton équipe à telle date pour que tu as le droit d'offrir 8 ans sur un contrat. Alors, si jamais ça se fait, ça va être une situation très semblable à ce qu'on vient de voir avec Matthew Tkachuk, qui a signé pour 8 ans avec Calgary, puis par après a été échangé, première fois de l'histoire de la Ligue nationale, selon Brad Tree Living, qu'on a eu un sign and trade, qui est comme très commun dans l'NBA, mais la première fois qu'on l'a vu dans la Ligue nationale. Alors ça, c'est un scénario qui est possible. Et tout ce que tu as dit, c'est vrai. Moi, mon point, c'est juste que quand tu parles du poids de pouvoir dans les négociations d'un échange, oui, c'est sûr que le Canadien aimerait ça échanger pour Pierre-Luc Dubois aujourd'hui, mais ils ne sont pas prêts à donner n'importe quoi aux Jets pour le faire parce que ils savent que si jamais ça ne marche pas, on a la possibilité d'aller le chercher en 2024. Puis écoute, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. D'ici 2 ans, entièrement d'accord. Il devrait avoir d'ici là plus ou moins 20 millions de dollars libérés sur le plafond salarial, en pas incluant les remplacements des joueurs qui quittent là, mais tu as beaucoup de contrats qui seront plus sur les livres du Canadien d'ici là. Tu as Evgeny Dadonov, tu as Mike Hoffman, Christian Dvorak va avoir 1 an qui reste, Armia, même chose, Byron serait probablement parti, Rem Pitlick, son contrat va venir à échéance, Joel Edmondson, Savard va lui rester 1 an, Drouin serait probablement parti, alors, tu sais, Jake Allen serait parti, le portrait financier du Canadien va être beaucoup changé, puis aussi, d'ici là, si les prévisions de la Ligue nationale sont justes et sont vraies, on devrait être très proche du moment où le plafond salarial va recommencer à augmenter à chaque année, va recommencer à être lié aux revenus de la Ligue au lieu d'être lié à une formule où les joueurs doivent repayer tout l'argent qui a mis la balance entre les revenus qui sont supposés être partagés 50-50. Ils doivent repayer une certaine dette des années de pandémie qu'on vient de passer. Cet avenir-là va être plus proche, rendu en 2024 aussi. Alors effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer d'ici 2 ans. Mais ce que moi je dis, c'est que si je vois ça du côté du Canadien, en fait, ça revient à ta question, ta première question. Est-ce que le Canadien a vraiment besoin de Pierre-Luc Dubois? Peut-être que non. Et peut-être que c'est juste un luxe. Mais c'est un luxe que si le Canadien peut se permettre de prendre ce luxe, d'avoir ce luxe-là, ils vont le faire, mais si ça leur coûte trop cher ou si ça leur coûte des joueurs qui ne veulent pas échanger, ils ont aussi le luxe de dire non, on n'a pas besoin. Si jamais Kirby Dach devient ce que tout le monde s'attend de lui, c'est vrai que le Canadien n'a pas nécessairement besoin de Pierre-Luc Dubois. C'est pour ça que je dis que dans l'offre d'échange, il faut comparer. Tu sais, le Canadien doit dire, OK, on va t'offrir telle chose. On est pas mal confiant que c'est le meilleur package que tu vas avoir, là. Parce que personne d'autre va offrir grand chose pour 1 an de Pierre-Luc Dubois. Ça, c'est clair. Alors, même si, quand je dis, si tu crées un package autour de Christian Dvorak, évidemment, il y a d'autres choses qui doivent s'ajouter à ça. Il y a un choix de première ronde qui doit s'ajouter à ça, peut-être en 2024. Il y a peut-être un espoir ou deux qui doit s'ajouter à ça. Un gars, peut-être un Josh Anderson intéresse Winnipeg comme étant quelqu'un qui peut les aider à court terme. Mais les Canadiens, dans une position où, vu qu'ils ne sont pas obligés de faire quoi que ce soit, ils peuvent tenter leur chance quand Pierre-Luc Dubois devient joueur autonome. Ils sont dans une position où ils n'ont pas besoin d'offrir rien. Ce qu'ils veulent. T'sais, leur offre est très relative. C'est pas une offre qui va égaler la valeur de Pierre-Luc Dubois, parce que les Jets Winnipeg sont dans une position où fort probablement il va falloir échanger Pierre-Luc Dubois contre un retour qui équivaut pas à sa valeur comme joueur.
Ouais, ben écoute, en même temps,
regarde l'échange de Trouba, pardon, mais si tu regardes l'échange de Jacob Trouba, écoute, ils ont reçu des bons joueurs en retour, mais tout ça étant dit, tu sais, c'est comme, est-ce qu'ils ont reçu le package qu'ils auraient dû recevoir pour ce joueur-là, étant donné où il était rendu dans sa carrière, qu'est-ce qu'il avait fait avec Winnipeg à date, son âge, tout ça. Finalement, ils ont reçu, pour Jacob Trouba, ils ont reçu Neil Pionk, qui est un bon défenseur, qui s'est amélioré en arrivant à Winnipeg. Il a démontré beaucoup plus avec eux qu'il l'a fait avec les Rangers. Puis on reçoit un choix de première ronde, qui était le 20e choix finalement, puis c'était Ville Heinola qui ont repêché avec lui. Mais c'était un choix de première ronde et Neil Pionk contre Jacob Trouba, parce que la situation était très semblable. Jacob Trouba avait déjà démontré un désir d'aller jouer pour les Rangers un jour. C'était lié à la carrière de sa femme qui travaille dans... je sais pas si c'est comme médecin ou... En tout cas, il travaille dans le domaine de santé, puis il voulait travailler dans la région de New York, puis il voulait l'accommoder, dans le fond, puis aider sa carrière, sa femme. Alors, il avait rendu ça clair qu'il voulait aller jouer à New York. Et New York le savait, Winnipeg le savait. Alors, il était dans une position où il fallait faire un échange ou recevoir quelque chose pour ce joueur-là, puis c'est ça qu'ils ont reçu. Alors,
ouais. Le parallèle est très clair à établir entre les deux joueurs. Il n'y a aucun doute là-dessus, mais c'est juste quand tu dis, alors, tu ne peux pas recevoir grand-chose en retour de Dubois pour 1 an de ses services. C'est un petit peu, dans le fond, tu regardes Trouba, c'est un petit peu comme s'il avait été cédé à la date limite des transactions. C'est le genre de retour que tu auras obtenu en l'échangeant à la date limite des transactions. C'est vrai que tu profites des services d'un bon joueur pour une saison complète au lieu de juste le dernier droit de la saison, ce qui est plus intéressant. Mais par contre, quand il s'agit d'un haut salarié, ben, il faut que tu aies de la place pour pouvoir le placer sous ton plafond salarial durant toute la saison, tandis qu'à la date limite des transactions, étant donné qu'il reste jusqu'à un certain pourcentage de la paye à consentir aux joueurs, ben, à ce moment-là, c'est c'est plus facile d'insérer un nouveau joueur. Donc, tu n'as pas nécessairement plus de valeur pour un joueur en l'échangeant pour une saison complète qu'à la date limite des transactions. Mais dans le cas Dubois, le parallèle pourrait être intéressant. Puis, je voudrais renchérir sur ce que je disais par rapport au fait qu'est-ce que le Canadien a vraiment besoin de lui. Moi, encore une fois, je continue de croire, je le visualise très, très bien, Dubois, dans l'uniforme du Canadien. C'est comme... c'est ça. Les athlètes font de la visualisation, mais moi, je me ferme les yeux puis je le projette très bien dans l'uniforme du Canadien. Mais parmi les choses qui peuvent se passer d'ici ce temps-là aussi, c'est que si le Canadien connaît une mauvaise saison et se ramasse avec un haut choix au repêchage, il y a de très bons joueurs de centre qui vont être disponibles au prochain repêchage. Fait que non seulement tu vas avoir Suzuki, Dak et Dvorak qui vont être déjà sous contrat au sein de ton équipe, mais il se pourrait très bien qu'il y ait un centre de haut niveau qui s'ajoute à la pépinière puis qui rentre dans l'équation à relativement court terme. Fait que ça aussi, c'est une autre facette, je pense, qu'il faut dont il faut tenir compte là, dans le cas du Bois. As-tu quelque chose à ajouter sur son dossier en particulier?
Ben, tu sais, c'est juste que tout ce qu'on vient de discuter, c'était juste rendu plus clair avec sa disponibilité média de lundi. Il a été demandé par le même journaliste deux fois de suite. As-tu l'intention de te rendre au marché de joueurs autonomes en 2024? Il a complètement évité la question. Il est revenu une autre fois. OK, tout ça est beau, mais as-tu l'intention de te rendre au marché de joueurs autonomes en 2024? Puis encore une fois, il n'a pas vraiment dit oui ou non. Puis plus tard dans la conférence, c'est quand même lui contre les médias de Winnipeg. Puis tout le monde était comme, écoute, ça paraît pas bien, là, ton affaire. C'était très... Et Dubois lui-même a reconnu qu'il était mal à l'aise de faire sa disponibilité aux médias. Il avait pas hâte de faire ça. Mais il l'a fait. Puis il a répondu à toutes les questions. Sauf qu'il a répondu à plusieurs des questions sans dire grand-chose. Alors, tu sais, mon impression... Après avoir participé à cette conférence-là, puis après avoir écouté toutes ses réponses, puis voir son, tu sais, un peu son body language, un peu sa façon de parler, si moi j'étais Ken Hughes ou Jeff Gorton en regardant ça, je serais encore plus confiant dans ma conviction de dire bon, mais on peut attendre jusqu'à 2024 puis prendre nos chances. Au pire, il signe avec quelqu'un d'autre puis c'est pas la fin du monde. Tu sais, c'est ça l'affaire dans toute cette affaire-là, c'est que pour le Canadien, il n'y a rien qui presse. Rien. Et c'est pour ça que je continue à dire, c'est que s'ils sont capables de faire un échange où le Canadien ne cède pas des actifs qu'eux autres trouvent font partie de leur avenir assez rapproché là, dans les 2-3 prochaines années, ben vas-y. Fais-le, mais ils sont aucunement obligés de faire quoi que ce soit. Et ils sont... Moi, si j'étais eux, je me dirais que je vais avoir confiance dans notre processus. On va passer les 2 prochaines années à bâtir quelque chose de vraiment attrayant ici à Montréal. Puis rendu en 2024, on va essayer de le signer. Si on ne signe pas, on continue dans cette direction-là. On signe quelqu'un d'autre. Cette année-là, parce qu'évidemment, il aurait libéré l'argent nécessaire pour faire une offre à Pierre-Luc Dubois. Alors, c'est vraiment une situation idéale pour Montréal, je trouve. La situation qui n'est pas idéale, qui est loin d'être idéale, ça se trouve à Winnipeg. Alors, quand tu es dans une situation comme ça, et tu es l'autre équipe qui parle à une équipe comme ça, c'est toi qui as tout le pouvoir. Alors, ouais. C'est un peu ça. C'est juste renforcer l'idée que le Canadien a tout le pouvoir dans ce dossier-là parce qu'ils ne sont pas obligés de faire quoi que ce soit. Puis les Jets, eux autres, ils vont être obligés, probablement l'été prochain, d'agir en quelque sorte. Puis leur décision sur Dubois va avoir des répercussions sur leur décision sur plein d'autres joueurs et vraiment la direction générale de leur équipe pour les prochaines années. Alors, le dossier est beaucoup plus chaud à Winnipeg que ça l'est à Montréal. Et ça a juste été renforcé avec ce que Pierre-Luc Dubois a dit lundi.
Ouais, puis eux autres, c'est que c'est tellement pas la première fois que ça leur arrive de voir des joueurs de premier plan vouloir quitter l'organisation. Tu mentionnais Trouba, mais c'était lui-même pas le premier. Puis ce sera...
Il y avait Evander Kane qui demandait un échange de chaque année, tu sais, c'est comme... Oui, il y avait aussi des problèmes avec ses coéquipiers, mais le joueur lui-même essayait de se faire échanger pendant longtemps, tu sais, c'est comme... Il y a Dustin Byfuglien qui a juste décidé de plus jouer au hockey au lieu de continuer à Winnipeg. C'est comme, c'est...
Ouais, puis je pense que puis Scheifele puis Wheeler, là, leur situation est un petit peu plus floue, moins bien campée qu'elle l'a déjà été aussi avec les Jets.
Oh, absolument. Hellebuck, c'est probablement la même chose, là. On verra.
Ouais. Bon, il y a un... À la suite de l'échange de Matthew Tkachuk, il y a Jonathan Huberdeau qui est passé des Panthers de la Floride aux Flames de Calgary. Huberdeau, lui, il lui reste un an de contrat avant qu'il devienne joueur autonome sans compensation. Et là, un peu, c'est drôle parce que ça arrive exactement dans les mêmes temps où il y a toutes ces rumeurs-là entourant Pierre-Luc Dubois et le Canadien. Mais là, il a suffi que Huberdeau quitte la Floride pour que la machine à rumeurs s'emballe également chez les partisans du Canadien et que tout le monde se mette à voir Huberdeau, lui aussi, dans l'uniforme du Canadien. Ce sont deux situations complètement différentes, celle de Dubois et celle d'Huberdeau. Sauf que là où ça se rejoint, c'est que Huberdeau aussi a déjà manifesté son intérêt de venir jouer à Montréal. Je vais vous lire une déclaration qu'il avait faite à notre collègue Louis-Jean lors d'un événement de la fondation du CHUM en avril 2021. Il avait dit à Louis... C'est sûr que tu te demandes si tu vas pouvoir jouer pour Montréal. C'est une belle ville, c'est de là que je viens. Ça a toujours été un rêve de jouer pour Montréal. Mais pour l'instant, j'essaie de ne pas penser à ça. Je suis en Floride, j'ai du plaisir. J'aimerais vraiment participer à un championnat en Floride avant de peut-être aller à Montréal. Alors là, Huberdeau, lui, est à un an de l'autonomie. Évidemment, les Flames vont vouloir essayer de faire signer un contrat à long terme à Huberdeau. Même chose pour le défenseur Mackenzie Weegar qu'ils ont obtenu aussi dans la transaction de Tkachuk. S'ils y parviennent, je pense qu'ils vont avoir réussi vraiment à sortir d'un bourbier dans toute cette situation-là. Mais si jamais Huberdeau devient joueur autonome sans compensation, ben là, évidemment, il va y avoir une pression populaire disant « Hey, ce serait le fun que Huberdeau joigne le Canadien. » Mais quand je dis que c'est deux situations qui sont très différentes, c'est que je regarde l'âge des deux joueurs. Dubois... lui, pour l'instant, a 24 ans, peut atteindre l'autonomie complète à 26 ans, tandis qu'Huberdeau, lui, va devenir joueur autonome sans compensation, il va avoir 30 ans. Et je regarde la façon dont Kent Hughes et Jeff Gorton sont en train d'organiser leur flûte. Ils voient arriver justement à l'échéance de certains contrats, la possibilité de pouvoir liquider des salaires et de pouvoir faire place à une nouvelle génération de joueurs où c'est vraiment... Le noyau se bâtit autour de Suzuki, de Cole Caulfield, de Slafkovski. Est-ce que c'est vraiment logique de pouvoir intégrer un ailier qui va être certainement un ailier de qualité, mais un ailier coûteux qui a 30 ans au début de son contrat? Il me semble que dans la fenêtre du Canadien, ça s'insère beaucoup moins bien que Pierre-Luc Dubois. Je sais pas ce que tu en penses.
Ben moi... Moi, les rumeurs sur Huberdeau, en fait, c'est pas des rumeurs, c'est des spéculations. T'sais, c'est comme... Des rumeurs sont basées sur quelque chose. T'sais, c'est comme... Partir en rumeur... Oui, il y a plein de monde qui peut partir des rumeurs, mais moi, je vois ces choses-là comme des spéculations. T'sais.
Ouais.
Les rumeurs concernant Pierre-Luc Dubois sont basées sur des faits, sur de l'information, des gestes et de l'information que des journalistes ont pu avoir, découvrir. C'est basé sur quelque chose de réel. J'entends Huberdeau, c'est basé sur des circonstances et rien d'autre. Il n'y a rien qui lit. Puis t'as juste à voir... T'sais, Alan Walsh, l'autre jour, là, après que Jonathan Huberdeau et Mackenzie Weegar ont rencontré les médias à Calgary via Zoom, évidemment, quand il a dit que je serais ouvert à signer à long terme à Calgary. Et je pense que c'est TSN qui l'a pris, puis on fait une petite photo de médias sociaux, là, puis on sortit ça. Puis Alan Walsh a repris ça, puis retweeté ça, puis il a dit « Ah, j'entends Huberdeau ce qu'il a dit aujourd'hui. » Tu sais, c'est comme... d'un côté, tu as Pat Brisson qui fait ce qu'il a fait. Alors, d'un autre côté, tu dois voir ça comme, écoute, ça, c'est un message public que son agent voulait envoyer. Là. Non seulement que mon client a dit ça, mais he means it, c'est sincère. C'est pas, il voulait être certain que ces propos-là soient publiquement confirmés par le camp d'Huberdeau. Alors, honnêtement, si je suis Jonathan Huberdeau puis je regarde la situation à Calgary, évidemment, moi, à sa place, j'aimerais ça voir comment ça se passe cette saison. T'sais, ils ont quand même perdu deux joueurs qui ont récolté plus de 100 points l'année passée. Il y en a un qui est revenu. Il y a un défenseur quand même de bon calibre qui est revenu aussi en Mackenzie Weegar. Ça rend la défensive à Calgary quand même assez étanche et très intéressant comme un groupe de 6 défenseurs. J'aimerais savoir comment ça va se passer si je suis Jonathan Huberdeau. Mais après, tu sais, si Calgary est capable de demeurer une équipe qui compétitionne, qui est quand même une équipe qui peut espérer avoir du succès en séries éliminatoires, à la place de Jonathan Huberdeau, je signerais à Calgary. Tu sais, c'est comme, tu sais, il rentre très bien dans l'âge de l'équipe. T'sais. Il va avoir 30 ans, oui. Mais Brett Coleman, il va avoir 31 ans rendu là. Elias Lindholm va avoir 28 ans rendu là. Tyler Toffoli est là. C'est comme, ouais. Il rentre dans l'heure. Il est un très bon fit où ils sont comme équipe. Ouais. Tandis qu'à Montréal, c'est bien beau ce qu'il a dit à Louis-Jean, là, mais honnêtement, Pierre-Luc Dubois a fait ce point-là pour défendre le fait que Pat Brisson a dit ce qu'il a dit. Il a dit, ben, quand tu demandes à des joueurs, si tu demandes à des joueurs qui viennent de n'importe quelle place, c'est sûr qu'ils vont dire que je veux jouer pour l'équipe de ma place. T'sais. Si tu demandes à un joueur de Boston s'il veut jouer pour les Bruins, il va dire, ah ouais, c'est sûr, j'aimerais ça un jour. T'sais, il a dit ça pour essayer de minimiser ce que Brisson a dit, ce qui, à mon avis, n'a pas vraiment fonctionné. Mais dans le cas d'Huberdeau, le quote que tu as donné, ça tombe parfaitement dans ça, tu sais, c'est comme, il est demandé à un événement publiquement, est-ce que t'aimerais ça jouer à Montréal? Il est à Montréal, il plays to the crowd un peu, tu sais, il donne une réponse que tout le monde veut entendre, puis prenons une réponse qui est sincère, oui, si les circonstances faisaient en sorte que je jouais à Montréal un jour, j'aimerais ça. Mais les circonstances actuelles, dans son cas, je pense que retourner à Calgary, ou juste aller chercher le meilleur contrat que tu peux, parce que, veux pas, à 30 ans, c'est probablement le dernier contrat qu'il va signer de sa carrière. S'il est capable d'aller chercher 7 ans à un montant intéressant, peu importe où c'est quelque chose qui devrait l'intéresser. Ou, rendu là, tu sais, il n'y a pas encore une bague de la Coupe Stanley, ça peut être sa priorité, mais je pense pas que les priorités de Jonathan Huberdeau alignent aussi bien avec le Canadien que celle de Pierre-Luc Dubois. Là.
Non, je suis d'accord avec toi. Puis j'ai vu beaucoup de commentaires aussi de fans sur les médias sociaux qui disaient « Ah, ben Huberdeau, c'est clair qu'il ne signera pas. Regardez qui est derrière le banc de cette équipe-là. C'est clair qu'une équipe qui... Tu sais, il va vouloir fuir Daryl Sutter à la première occasion. » Un instant, là. Daryl Sutter est arrivé à la barre des Flames de Calgary et, aux dernières nouvelles, Johnny Gaudreau puis Matthew Tkachuk ont eu les premières saisons de 100 points de leur carrière avec lui. Fait que c'est pas comme ouais. s'il étouffe l'attaque de ses équipes ouais. D'une manière qui fait en sorte que les talents offensifs peuvent pas s'exprimer. Gaudreau et Tkachuk ont eu la meilleure saison de leur carrière, un très très bon moment pour eux au plan contractuel. Ce sont deux Américains qui voulaient retourner aux États-Unis. On peut dire que Calgary est entré dans la... et rentre dans l'équation, les questions fiscales rentrent dans l'équation. Mais lâchez-moi deux secondes avec Daryl Sutter. Là, j'en ai parlé suffisamment souvent avec Tyler Toffoli pour savoir que Daryl Sutter, c'est pas un gars qui fait fuir les joueurs. Il y a des joueurs qui sont très contents de pouvoir évoluer pour lui. Puis c'est un petit peu la même perception à l'égard de John Tortorella. C'est que les gens voient la personnalité au plan médiatique, disait cette personne-là n'est pas sympathique au plan médiatique, ça doit pas être le fun de jouer pour lui, mais dans le vestiaire... Mais
c'est pas le cas.
Non, c'est ça. Fait que c'est vrai.
Il vient de remporter le Jack Adams. C'est comme s'il vient d'être nommé le meilleur coach de la Ligue nationale. C'est pas comme si... Puis, c'était mérité. tu sais, l'amélioration de cette équipe depuis qu'il est devenu, tu sais, il est devenu le coach des Flames à mi-chemin la saison dernière. Écoute, il a fait ce qu'il pouvait dans les circonstances qu'il y avait. Et ça lui a pris une saison morte pour régler tout ça. Puis les Flames étaient une des meilleures équipes de la Ligue cette saison. Je vois pas pourquoi les joueurs ne voudraient pas jouer pour Darryl Sutter. Au contraire, c'est quelqu'un qui a toujours produit des résultats partout où il était et a toujours été apprécié par ses joueurs. Alors ça, c'est quelque chose que, oui, je suis d'accord. Je pense qu'il y a un petit peu une perception comme Tortorella, mais c'est pas John Tortorella. C'est pas la même chose du tout, à mon avis.
Non, c'est ça. Enfin, ça a été... je pense que ça va être un... C'est deux dossiers qui vont être intéressants à suivre, puis c'est intriguant parce que dans les deux cas, il s'agit de joueurs québécois. Je comprends tout à fait l'engouement qui est pour les deux joueurs, mais au risque de me répéter, là, je pense que Dubois, compte tenu de son âge, compte tenu aussi du style de jeu qu'il pratique, j'ai l'impression que le nouvel état-major du Canadien va avoir non seulement vouloir être à la recherche de joueurs de bons gabarits, puis quand même Huberdeau a un bon gabarit, mais aussi un style de jeu un tantinet plus physique, plus hargneux. Puis je pense que Dubois tombe là-dedans. Alors, on verra bien comment les choses vont se placer, mais sauf que il n'y a pas... Dans les deux cas, le Canadien n'a pas une urgence de poser un geste et de se compromettre maintenant. Je pense que des fois, avoir montré de la patience pour laisser les situations, les pions s'installer de la bonne manière, des fois, tu laisses le temps faire les choses, puis la réponse t'apparaît de façon beaucoup plus évidente si tu as laissé la situation respirer au lieu d'être précipité là-dedans. Fait que, mais en tout cas, souhaitons que ça se règle comme Dubois le veut, et souhaitons que ça se règle aussi pour Huberdeau. C'est un peu une pilule dure à avaler pour lui, sauf qu'il peut faire contre mauvaise fortune bon cœur, puis prouver que loin de Sacha Barkov, il est quand même en mesure d'être un joueur qui est dominant, qui peut être le driver sur son trio, qui peut être le joueur qui fait la différence au sein de son équipe. Lui aussi, il sort de sa meilleure saison en carrière, donc c'est pas des peanuts que les Flames sont allés chercher là, en faisant son acquisition.
Oui, absolument. Écoute, en terminant, tu as sorti un article basé sur une entrevue que tu as faite avec Dominique Ducharme. Il y a eu son tournoi de golf récemment où il a parlé aux médias, mais lui, il s'est assis avec toi pendant longtemps chez lui, à Joliette. C'est la première fois qu'il fait ça depuis qu'il s'est fait congédier par le Canadien. Je voulais juste savoir, tu sais, en plus de l'article que j'encourage tout le monde d'aller lire sur notre site en ce moment, mais en plus de ça, comment t'as... Tu sais, c'était quoi quand t'es sorti de chez lui, c'était quoi l'impression que t'avais de... C'est son esprit, comment il se sentait, comment il voyait les choses, comment il voyait son avenir. C'est quoi le feeling que tu avais en sortant de cette entrevue-là?
Ben, écoute, j'ai eu l'impression, surtout, là, le feeling principal, c'est que c'est un gars qui n'a pas vraiment de regrets par rapport à la façon dont il a géré les choses. Il demeurait très fidèle, très constant par rapport à ce qu'il nous disait quand il était entraîneur-chef, au quotidien, les défis auxquels il faisait face, puis les irritants qui devait surmonter. Ils n'ont pas disparu. Puis à ce niveau-là, il restait cohérent avec ce qu'il nous disait. Puis je pense que je pense que les circonstances exceptionnelles auxquelles il a fait face en tant qu'entraîneur-chef du Canadien durant la pandémie et tout ça, je pense que ça affecte beaucoup la façon dont il va être jugé. Et lui, il se dit, ben, si j'avais été dans des circonstances plus normales, probablement que les choses se seraient passées différemment ou ça n'aurait pas été un tourbillon complètement fou. Et puis, j'ose croire que lorsque je vais avoir une autre opportunité de me faire valoir dans la Ligue nationale, les circonstances vont être plus normales. Puis là, je vais pouvoir davantage m'exprimer en tant qu'entraîneur. Puis à ce niveau-là, il m'a pas apparu comme un coach qui disait « Ouais, ben là, finalement, j'ai appris des sérieuses leçons de ce qui m'est arrivé à mon premier tour comme, comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale. Si c'est à refaire, il y a ça que je ferais différemment. Je pense, pour le meilleur et pour le pire, il est à l'aise avec les choix qu'il a faits. Il y en a qu'on peut, tu sais, il y a des décisions qu'on peut remettre en question jusqu'à demain matin, puis il y en a qu'on a de la difficulté à s'exprimer, à s'expliquer. Mais lui, il est très serein par rapport à ça. Et l'autre chose, c'est que je n'ai pas senti d'urgence chez lui à vouloir se trouver du boulot dans la Ligue nationale immédiatement. De toute façon...
Il y a deux ans de salaire qui arrivent du Canadien, anyway. Là.
Ben, c'est ça. T'sais, alors là, il y a le luxe de pouvoir attendre, de pouvoir trouver une situation qui va lui plaire, qui va lui convenir, avec qui il va travailler, où il va travailler, dans quel rôle. C'est clair qu'il ne cherche pas seulement à être un entraîneur-chef dans la Ligue nationale. Il pourrait revenir comme adjoint. Je pense que ça lui posera aucun problème. Je pense pas qu'il l'ait aussi qu'il soit dérangé par la perspective de voir aller coacher dans la Ligue américaine. Il m'a parlé également potentiellement de l'Europe. La seule chose qu'il met de côté, c'est un retour dans la Ligue junior majeure du Québec, parce qu'à ce niveau-là, il croit avoir fait le tour du jardin, puis je peux le comprendre à cet égard-là. Alors, puis tu sais, quand on parle de circonstances exceptionnelles, là, nous, on le voit de l'extérieur, puis on juge le travail qu'il a fait, puis on a tendance à escamoter beaucoup le fait que le Canadien s'est rendu contre toute attente en finale de la Coupe Stanley, puis on a frais en mémoire tout ce qui s'est passé après la débandade du Canadien dans l'année qui a suivi. Mais de l'intérieur, les états-majors d'équipe ont vécu aussi cette pandémie-là avec tout un tas de contraintes qui ont changé les paramètres, qui ont changé la donne. Et je pense que je serais pas surpris qu'il y ait une équipe qui, à un moment donné, se dise « Ben, ce gars-là, il a eu tellement il s'est retrouvé tellement avec une main difficile à jouer, qu'on serait prêt à lui donner une deuxième chance, probablement comme adjoint. Là, je verrais plus Ducharme revenir dans la Ligue nationale comme adjoint que comme entraîneur-chef. Et que il a pas cessé d'être un bon coach du jour au lendemain. C'est sûr qu'il y a des gars, tu sais, je pense à mon Dieu, j'oublie son prénom, mais Johnston, là, qui était à Portland autrefois et qui est allé coacher les Penguins de Pittsburgh.
Ouais. Je pense à lui aussi. Là. Je pense que c'est une situation quand même assez comparable.
Oui, c'est un gars qui a eu énormément de succès dans le junior, dans la Ligue de l'Ouest. Il y a eu un seul passage, encore là, environ un an et demi. Ça ne s'est pas bien passé avec les Penguins. Il n'est jamais revenu dans la Ligue nationale par la suite.
Ouais, c'est Mike Johnston, by the way.
Mike, c'est ça. Ouais, alors, my God, c'est commun.
Oui, c'est ça.
Mike Johnson. Pourquoi pas John Smith d'un coup parti?
Oui, c'est ça.
Alors, tu sais, il y a quand même des exemples de gars qui ça a été un tour et puis s'en vont, puis ils ne reviennent jamais. Fait que j'espère que ce ne sera pas le cas avec Ducharme, puis peut-être que le fait que le temps passe va lui... Ça va bien le servir. Mais, tu sais, je pense que la question... Le fait qu'il ait des réseaux à travers... des connaissances à travers le réseau de Hockey Canada, qui passe un mauvais quart d'heure par les temps qui courent. Mais bon, il y a quand même un réseau de contacts qui pourrait faire en sorte que il pourrait se retrouver une place éventuellement quelque part.
Oui, moi, je dirais la chose qui est intéressante dans ce qu'il a dit, puis je pense qu'il a raison, tu sais, quand il a mentionné que toutes les choses qui se fait dire de Martin Saint-Louis, c'est des choses qui se faisaient... Le monde disait la même chose de moi quand j'ai arrivé. Et c'est vrai. Ouais. Tu sais, quand il est arrivé... il faisait des choses d'une façon très différente, il était très impliqué, il y avait des entraînements très détaillés, il y avait des demandes très détaillées de ses joueurs, et alors c'est pas nécessairement la même façon que Martin Saint-Louis fait les choses, en fait, de plusieurs façons, c'est l'opposé de ce que Martin Saint-Louis demande de ses joueurs. Martin Saint-Louis préfère pas donner des trajets précis à ses joueurs pour des sorties de zone et tout ça. T'sais, tout était très, très, très spécifique dans la tête de Dominique Ducharme, mais l'idée de créer des options ou d'avoir plusieurs options, c'est quelque chose que Martin Saint-Louis prêche aussi. Alors moi, ce que je retiens de ce qu'il a dit concernant l'avenir du Canadien, c'est que moi, je vois la saison qui s'en vient et je vois que la lune de miel de Martin Saint-Louis est terminée. Tu sais, là, il y a eu une demi-saison pour faire ce qu'il y avait à faire sans jamais avoir des attentes quelconques et sans jamais avoir à supporter la critique ou de se faire demander, de se faire questionner sur ses décisions. C'était très facile comme entraîneur du Canadien. Tu sais, d'habitude, à chaque jour, il faut que tu t'expliques, il faut que tu défends tes positions, il faut que tu défends tes décisions. Martin Saint-Louis n'avait pas à faire ça nécessairement. Dominique Ducharme, oui, il avait besoin de faire ça pas mal souvent pendant sa première saison. Mais c'était un peu le même phénomène un tout petit peu. Alors, tu sais, quand je vois comment ça s'est déroulé, ou le dénouement de Dominique Ducharme, je vais être très intéressé de voir comment Martin Saint-Louis, lui, va gérer ça. Parce que, tu sais, quand tu dis que Dominique Ducharme avait pas, tu sais, il changerait pas rien, je pense que ça, c'était un de ses problèmes et je pense que c'est une façon que ses joueurs l'ont vu. Ouais. Qu'il n'y avait pas assez de souplesse, tu sais. Il était trop confiant en ses moyens. Et la confiance, c'est une bonne chose, tu sais. Ça, c'est quelque chose qu'un coach doit avoir. Il doit être confiant dans ce qu'il dit. Il doit être confiant dans son message. Il doit être confiant que ses directives vont mener à du succès. Mais sauf que quand ce succès-là se produit pas, un coach doit être capable de montrer un peu de souplesse aussi, là. Puis ça, Dominique Ducharme, je pense pas qu'il était capable de faire ça. Et j'ai hâte de voir si Martin Saint-Louis va être capable de faire ça. J'ai l'impression que oui. Je pense que oui. Je pense que c'est quelqu'un qui est à l'écoute de ses joueurs. Mais ça reste à déterminer. On n'a pas vu encore, ou en tout cas, on n'a pas eu besoin de le voir encore. Mais je pense que comme dorénavant, il va falloir que Martin Saint-Louis démontre une capacité d'ajustement que je pense que Ducharme n'a pas été capable de démontrer.
Non, c'est juste. Puis j'allais challenger justement par rapport au fait qu'il y avait probablement manqué de souplesse à l'égard de ses joueurs, parce que c'est les échos qu'on entendait aussi, qu'il y avait une certaine rigidité dans son approche, puis que, mm-hmm. à un moment donné, ça fait... S'il y a une méthode qui ne fonctionne pas, ben, il faut en trouver d'autres, au lieu de persister en disant, ben là, si on continue, ça va finir par fonctionner. Mais il y a plusieurs choses intéressantes dans cette entrevue-là, fait que j'invite les gens à aller la lire. Là. Il y a question de Cole Caulfield, beaucoup des critiques que Ducharme a reçues, qu'il a entendues à l'effet qu'il aurait lui-même coûté le trophée Calder à Cole Caulfield. Alors, il réagit par rapport à ça, par rapport à Jeff Petrie, au changement de direction aussi, le changement de directeur général qui a vraiment... modifier la donne beaucoup, beaucoup pour lui. Sa perception de l'équipe avant même que la saison commence. Je pense que il était très conscient du fait que en entrant dans la saison 2021-2022, le Canadien n'était pas équipé pour retourner en finale de la Coupe Stanley. Puis ça, il l'a dit de façon très, très claire. Alors, somme toute, tu sais, il a été... Il a été généreux de son temps, il a été transparent dans ce qui... Et il a également été fidèle à lui-même. Je pense pas que... Tu sais, c'est un gars qui ne bullshit pas, Dominique Ducharme. Puis ça, je trouve ça intéressant de sa part. C'est un gars qui est intègre et qui... Mm-hmm.
Straight shooter, comme on dit en anglais. Là.
Straight shooter, exactement. Ouais, c'est ça. Il n'a pas les... Tu sais, évidemment, il parle pas avec le même... niveau d'engagement et de et avec le même feu dans les yeux que Martin Saint-Louis, puis peut-être que ça a moins mobilisé ses joueurs que
ben c'est pas que... il donne pas un bon show pour la télé là, c'est un peu ça, mais le contenu de ce qu'il dit, j'ai toujours apprécié que c'est la plupart du temps il prenait pas les questions personnellement, il comprenait que les questions le but des questions, c'était d'avoir son point de vue sur une décision qu'il a prise, puis il le prenait pas, tu sais, comme Claude Julien prenait un questionnement de ses décisions comme une attaque de sa décision, tandis que je pense que Dominique comprenait que la raison qu'on demandait des questions sur ses décisions, c'était juste pour savoir le pourquoi. C'était quoi la pensée derrière ça, puis il a toujours bien compris ça, puis il a toujours été capable de communiquer ça de sa façon. Tu sais, c'est pas aussi... Ouais, c'est peut-être pas aussi... c'est entertaining que Martin Saint-Louis le fait, mais je trouvais toujours que l'information qu'il communiquait avec les médias et les partisans Il y avait beaucoup de contenu dans ce qu'il disait, puis j'ai toujours apprécié ça.
Puis tu sais, ne pas se sentir attaqué là, par les questions qui sont posées, surtout quand ça va mal, c'est une qualité qui est assez rare, surtout pour un entraîneur recrue, un entraîneur-chef recrue dans la Ligue nationale. T'sais. Ça prend une certaine dose de confiance en soi, puis d'être bien dans sa peau, bien avec ses opinions, ses convictions, pour que justement tu n'interprètes pas les critiques voilées ou les questions plus pointues qui te sont adressées, que tu les interprètes pas de la mauvaise façon. Parce que c'est vrai que Claude était comme ça, Michel Therrien était comme ça encore plus que Claude Julien.
Ouais.
Si tu as l'épiderme sensible un petit peu...
Guy Carbonneau était comme ça, Alain Vigneault était comme ça.
Ouais.
Et je peux en nommer d'autres ailleurs dans la Ligue nationale qui sont comme ça. Alors oui, c'est effectivement, c'était une qualité.
Ouais, c'est peut-être quelque chose que d'autres organisations vont avoir remarqué également. Puis disent, il y a peut-être quelque chose là. Mm-hmm. On verra bien. Écoute, merci beaucoup, Arpin. La semaine prochaine, on vous revient avec notre épisode en anglais. Ça va être notre dernier épisode avant la pause. Notre pause estivale, on se la promet depuis un bout de temps, puis je pense que là, on va prendre quelques semaines après l'épisode de la semaine prochaine. Donc, vous pourrez nous revenir pour The Athletic Support. On va avoir un invité la semaine prochaine, donc ça va être, je pense que ça va être assez intéressant. On va aller dans une direction différente, disons, la semaine prochaine. Donc, oui. Voilà. Merci, Arpin.
Merci, tout le monde.
Bye-bye. Bye.